Nous venons d'entendre le texte des Béatitudes que tout le monde connaît. Mais il faut savoir aussi qu'il y a un autre texte des Béatitudes dans Matthieu. Et le verset que je vais retenir de ces Béatitudes, je le prendrai plutôt dans Matthieu. Luc nous dit « Heureux ceux qui pleurent, car ils riront. » Et dans Matthieu, nous lisons « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. » Et je préfère, ce matin, réfléchir avec vous sur ce verset. J'ai longtemps hésité, avant de me lancer dans une réflexion sur ces quelques mots, jusqu'à ce que je repense à François, qui était bien souvent avec moi ici. Andréa m'a rejoint dans ce besoin de raviver sa mémoire. Je suis conscient de ce que le verset retenu n'est pas facile. Il y a deux mots qui ne s'associent pas, heureux et pleurer. Aussi pardonnez-moi si je ne me montre pas à la hauteur de ce que peut-être vous attendez de moi ce matin. Chacune de ces paroles, désignées sous le nom général de béatitude, nous venons de le dire, contient à la fois une promesse et un appel adressé à tous ceux qui ambitionnent de les suivre. À qui, dans notre texte, s'adresse cet appel et est faite cette promesse? Une première remarque s'impose. Ceux à qui s'adressent les béatitudes sont en général en nombre limité. Tous les hommes ne peuvent être rangés parmi les pauvres, en esprit, ou parmi les débonnaires. Tous ne peuvent être considérés comme des miséricordieux ou des persécutés. Et les cœurs purs, les assoiffés de justice, ne forment pas sur la terre la majorité. Tandis que la parole « ceux qui pleurent » semble pouvoir s'appliquer à tous les hommes, car tous, sans exception, ont pleuré, pleurent ou pleureront. Je ne sais qui a dit « le rire est le propre de l'homme », mais combien serait-il vrai aussi de dire que « pleurer est le propre de l'homme ». Déjà, le nouveau-né pleure bien avant de savoir sourire. Et si l'on peut imaginer un homme qui n'ait jamais ri, on ne peut concevoir une créature humaine qui arriverait au terme de sa vie sans avoir jamais pleuré. Celui qui n'aurait jamais connu le bienfait des larmes serait un être au-dessus, ou plutôt en dehors de l'humanité. Nous pourrions dire de lui, à l'inverse du verset, malheureux celui qui ne pleure pas. Autrement dit, mais la promesse de consolation s'adresse-t-elle à tous ceux qui pleurent, c'est-à-dire tous les hommes. Autrement dit, tous ceux qui pleurent seront-ils consolés? Non, bien sûr. Nous en avons le sentiment très net. Il y a des souffrances qui ne connaissent pas, qui ne connaîtront pas la douleur des consolations divines réservées à ceux qui pleurent dans le message des béatitudes. À ceux qui ont su répondre à l'appel qui leur est adressé, à ceux qui, au plus profond de leur souffrance, auront su prononcer ces mots « Ô Père, que ta volonté soit faite ». Paroles qui, prononcées par Jésus, à Gethsémané, furent suivis de l'apparition d'un ange pour le fortifier. Nous n'aborderons pas ici le problème de la souffrance et des pourquoi qu'il soulève. Problème insoluble, tant que nous serons sur cette terre et dont nous n'aurons la réponse que lorsque nous serons de l'autre côté. Toutes les réponses tentées ici-bas pour nous éclairer ne nous paraîtront un jour que balbutiements inutiles. En attendant, il nous faut accepter sur ce point le silence de Dieu. Ce qui importe beaucoup plus que de connaître le pourquoi de la souffrance, c'est de savoir comment nous l'accepterons quand elle viendra. Car si elle n'est pas encore venue pour nous, elle viendra inévitablement. Et peut-être, parmi nous tous réunis ce matin, il en est pour qui, à cette même heure, il est une terrible réalité. Pour tous, c'est une loi inexorable à laquelle nul n'échappe. L'homme est né pour souffrir, comme l'étincelle pour jaillir. Sommes-nous prêts à l'affronter? Comment l'accueillerons-nous? Une première attitude, et c'est peut-être la plus fréquente, est celle de la révolte. L'homme a le sentiment profond d'être fait pour le bonheur et que la souffrance est contre nature. Il est naturel que tout notre être entier, tant physique que moral, éprouve un sursaut de rébellion contre ce qui lui semble être et qui est en réalité un bouleversement de ce qu'il croit normal. Et cette révolte peut, parfois, prendre une forme outrée. Quand on a vu de près, quand peut-être on a éprouvé soi-même certains déchirements, certains paroxysmes de douleur, certains désespoirs, on comprend mieux les tempêtes qui peuvent bouleverser les êtres dont tout semble s'écrouler autour d'eux. Oh, ne les condamnons pas, ne les condamnons surtout pas. Qui sait sous quel fardeau la pauvre âme succombe? Ne nous approchons qu'avec une infinie pitié de ces grands blessés, de ces grands mutilés de la vie. Il y a un silence à garder devant la souffrance des hommes, un silence qui rend possible le déploiement de l'action de Dieu et tout d'abord la manifestation de sa présence. Efforçons-nous de leur apporter une lueur de la piété divine. Et l'infinie miséricorde de Dieu fera le reste et leur fera entendre, le moment venu, la parole consolatrice. Heureux ceux qui pleurent. Une autre attitude, beaucoup plus rare, est celle de ceux que l'on peut appeler les stoïques. La douleur est inévitable, attendons-la de pied ferme, et quand elle sera là, sachons la supporter en homme, le cœur blindé. Probablement ceux-là sont amenés à dire gémir, pleurer, prier, est également lâche. Fais énergiquement la longue et lourde tâche, puis, après, comme moi, souffre et meurt sans parler. On ne saurait nier la grandeur d'une telle attitude non plus. Hélas, que l'orgueil dont elle témoigne. Non plus, hélas, l'orgueil qu'elle témoigne. Mais on peut être certain que ce n'est pas à cela que s'adresse l'appel « Heureux ceux qui pleurent ». Certains se retranchent dans une sorte de résignation. Alors, certains maintenant se retranchent dans une sorte de résignation fataliste, n'ayant ni assez d'énergie pour se révolter, ni assez d'orgueil pour se ressaisir, ni assez de volonté pour chercher du secours là où ils pourraient en trouver. Ils adoptent, plus ou moins consciemment, cette formule de l'islam. C'était écrit, rien à faire. Nous sommes comme des brins de paille emportés par la tempête. Attendons donc avec résignation que le calme renaisse. Inch'Allah. Cette position n'est qu'une abdication sans grandeur, sans rien de ce qui fait la dignité de l'homme. Et nous ne la retiendrons pas. La résignation n'est pas une vertu chrétienne. Ce mot ne se trouve d'ailleurs nulle part dans notre Bible. Ce n'est pas à cela non plus que s'adresse la parole « Heureux ceux qui pleurent ». Cette parole, cette promesse sont pour ceux qui, comme dit tout à l'heure, mettent tout leur espoir en Dieu, se confient en lui, le recherchent dans toute leur détresse. Notons toutefois que contrairement aux autres versets des Béatitudes, cette promesse est au futur ils seront consolés, et non pas ils sont. Notre Seigneur veut laisser tout le temps à l'homme de se pénétrer de sa douleur, de descendre au fond de l'abîme, le temps aussi de se soulager par les larmes. En ce domaine, comme en beaucoup d'autres, l'homme doit savoir attendre et maîtriser ses ressentiments du moment par sa patience. Oh, combien parmi nous sont convaincus que le chrétien doit trouver la joie dans la souffrance. Combien d'entre nous, par le passé, ont chanté ce cantique ? Oui, selon ta promesse, ô Jésus, mon Sauveur, j'ai trouvé l'allégresse auprès de la douleur. Verset qu'en regardant de près, nous devons avoir bien du mal à prononcer ou à chanter. J'ai dit par le passé, car ce magnifique cantique fait partie de tous ceux qui ont disparu de nos recueils de chants en usage actuellement. Quoi qu'il en soit, il n'est pas rare de rencontrer des privilégiés qui affirment avoir trouvé joie, allégresse ou même splendeur dans leurs souffrances. Et nous pouvons les en croire, mais il faut bien admettre que nous n'avons pas tous ce privilège. Loin s'en faut. Tel ce chrétien qui, déchiré par un deuil cruel, s'écriait « Seigneur, ôte-moi mon désespoir et laisse-moi ma douleur. » Oui, tel cet autre que j'ai rencontré peu de temps après la mort de sa femme et qui m'a dit avec une grande sérénité, en même temps que l'esquisse d'un sourire, « Laissez-moi pleurer. » Tel aussi ce grand serviteur de Dieu qui, dans sa correspondance, nous parle en termes qui donnent vraiment le frisson d'une épreuve à la fois douloureusement humaine et qui, ayant supplié Dieu de l'en délivrer, ne reçut aucune réponse, sinon l'assurance que le secours d'en haut ne lui ferait pas défaut. Et nous avons assez parcouru les épîtres de Paul, car c'est bien de lui dont il s'agit, pour être certain que s'il avait trouvé la joie dans son épreuve, il l'aurait traduite par un magnifique cantique. Non, il ne nous a laissé que quelques mots. Ces quatre mots qui constituent d'ailleurs l'un des plus beaux et des plus précieux trésors de nos textes, de ces textes. Ma grâce te suffit. Je voudrais m'arrêter un instant devant une telle attitude. J'ai recherché dans le livre La Concordance tout ce qui touche à la douleur. Et je suis tombé sur un verset de l'épître de Jacques. Regardez comme le sujet d'une parfaite joie les différentes douleurs qui vous arrivent. Et je n'ai pu m'empêcher, en rédigeant ce texte, de relire le texte que m'avait adressé le pasteur Combes suite au décès de ma mère, lettre où il me disait « La souffrance vécue avec Dieu, auprès de Dieu, peut devenir une splendeur. » En présence de l'inévitable, même le plus douloureux, même le plus lourd à supporter, le chrétien accepte sa souffrance et s'efforce de confondre sa volonté avec celle de son Père, conservant son inaltérable confiance en celui qui a promis sa consolation à ceux qui pleurent. Courage donc, pauvre affligé, pauvre être affligé, accablé. Pleure sans honte devant ton Dieu. Tes larmes sont déjà par elles-mêmes un soulagement et un commencement de consolation. Et de même que la lumière du soleil passant au travers de la pluie produit un magnifique arc-en-ciel, de même, l'amour de Dieu traversant tes larmes fera apparaître au fond de toi-même non plus un arc-en-ciel de couleurs, mais celui des richesses de sa consolation. Et on peut joindre à cet appel une autre parole de Jésus empruntée au même sermon sur la montagne, parole qui semble s'appliquer à un sujet bien différent. Mais les paroles de notre Maître n'ont-elles pas souvent une résonance qui porte beaucoup plus loin qu'il ne le semble au premier abord? En effet, Jésus nous dit « Quand vous jeûnez, ne prenez pas un air accablé, comme ceux qui se font un visage tout défait, afin que leur jeûne attire les regards. Mais toi, quand tu jeûnes. Affermis ton visage, afin que les hommes ne savent pas, ne s'aperçoivent pas que tu jeûnes, mais seulement ton Père, qui est dans le secret, et qui te donnera ce que tu veux, ce qui t'est dû. Les différentes sortes de jeûnes. Et le plus pénible n'est pas celui qui affecte le corps. Il en est un autre, beaucoup plus douloureux. Le jeûne du cœur, si permanent, durable et inguérissable. Pauvre âme blessée, amputée, déchirée, écoute la parole du Maître. Quand tu sentiras monter en toi ce filet de douleur qui brise les barrières que tu tentes de lui opposer, ne prends pas un air affligé, de peur que ceux qui t'entourent ne s'aperçoivent de ta douleur. Mais entre dans ta chambre. Ayant fermé la porte, dis à ton Père ta douleur, ton désespoir même. Ton Père te voit dans le secret. Il ne te donnera pas la réponse à ton pourquoi, à tes pourquoi. Dieu qui nous aime et nous conduit, jour après jour, sait pourquoi, et cela doit nous suffire. Et tu entendras sa voix te dire, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et accablés, ma grâce suffit, heureux ceux qui pleurent. » Et alors, consolés, réconfortés, fortifiés, nous pourrons aller consoler, réconforter, fortifier les autres dans leur affliction, leur porter la consolation dont nous avons été nous-mêmes consolés. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Mais plus heureux encore, ceux qui, après avoir été consolés, deviendront à leur tour des consolateurs. Dieu, lui, sera avec eux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni souffrance. Dieu lui-même essuiera toute larme dans leurs yeux. Amen.